Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal.
À la une, la société civile Force Vive de la ville de Goma demande au gouvernement congolais d'améliorer la situation sécuritaire, sociale et humanitaire de cette ville en ce moment où elle fait face aux menaces de la rébellion du M23. Ainsi, un mémorandum a été déposé cette semaine aux dirigeants du pays par une mission de cette structure citoyenne à Kinshasa. Désormais, la police nationale congolaise recourt aux drones pour lutter contre l'incivisme routier et traquer les mototaximens qui accèdent à la Gombe ici à Kinshasa. L'annonce est faite par le commandant de la police dans la capitale qui précise que cette méthode sera aussi utilisée pour combattre les embouteillages. L'invité de ce journal est le président du conseil d'administration de l'ONG Environnement, Ressources naturelles et développement, RDND Institute, une organisation de défense des droits de l'homme. Roger Mouchouba plaide pour la traçabilité du diamant vert découvert en 2022 dans la province de Lomami. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu pour commencer. La coordination de la société civile Force Vive de la ville de Goma demande au gouvernement congolais d'améliorer la situation sécuritaire, sociale et humanitaire de cette ville. C'est en particulier en ce moment où Goma fait face aux menaces de la rébellion du M23. Le président de cette structure dit qu'un mémorandum a été déposé cette semaine aux dirigeants du pays par une mission qu'il conduit lui-même à ces sujets. Dans cette correspondance, cette structure relève au moins 18 défis à la stabilité dans la ville avant de formuler un plaidoyer pour une solution. Marion Gavo, joint par Bernard Denyangi.
Dans notre mission de plaidoyer, la société civile a visité plusieurs institutions nationales pour leur signifier les inquiétudes de la population, à savoir les combats à la porte de la ville de Goma, des personnes blessées dans la province du Nord Kivu, des déplacements massifs des populations et non assistés, l'insécurité et le largage des bombes dans les quartiers de la ville de Goma, l'interdiction des motards de travailler à 18 heures, l'identification monnayée des voitures à vitres teintées, les arrestations arbitraires, la circulation intense et incontrôlée des personnes en armes dans certains quartiers de la ville de Goma. Malgré les efforts menés sur terrain par les forces de défense, la situation reste intenable. C'est pourquoi la société civile demande au gouvernement d'organiser des traques systématiques vers les rebelles terroristes du M23, AFC, RDF, UPDF et ADF et changer le commandement actuel pour le retour des populations dans leurs villages, de lever l'état de siège, remettre la gestion aux civils et responsabiliser les militaires pour les opérations de combat.
Pendant ce temps sur le terrain au Nord Kivu, la situation est restée tendue et volatile hier autour de la cité de Sake. C'est après des violents combats ayant opposé mercredi les rebelles du M23 au FRDC et leurs alliés dans la zone. Selon plusieurs sources contactées sur place, malgré une accalmie précaire dans la zone, au moins deux autres bombes larguées par les rebelles ont ciblé dans la matinée une position militaire en pleine cité de Sake. Bernard Denyangi.
C'est autour de 7 heures locales ce jeudi que deux tirs de mortier présumés largués par les rebelles depuis la colline de Vunano qu'ils occupent toujours près de Sake ont ciblé une position militaire des FARDC et combattants locaux sur la colline Macha. L'autre est tombé près d'une maison des civils dans le quartier Mayuta au centre de la cité. Aucun bilan disponible jusqu'à présent, surtout que toute la cité de Sake reste vide de ses habitants depuis quelques semaines. Par ailleurs, si une accalmie précaire est rapportée à Sake ce jeudi matin, la situation reste volatile dans la zone. Certains de nos sources affirment que toutes les forces belligérantes sont en alerte et renforcent toujours leur position. Rappelons que presque toute la journée d'hier mercredi, la zone de Sake a été le théâtre de violents combats localisés autour de Kanvé, Vunano, Mwambaliro sur l'axe ouest de Sake-Kiroche ainsi qu'autour de Rutoboko et du site Trois Antennes au nord de Sake. Lors de ces combats, quelques bombes larguées par les rebelles sont tombées dans et autour du site de la base de la force de la SADC à Mubambiro. Certaines sources parlent d'un bilan de 3 morts parmi les civils près de cette base, soit 2 femmes et un enfant, alors qu'aucun bilan n'est encore disponible du côté militaire. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, les ex-combattants du site de désarmement et de démobilisation de Kassando dans les territoires des Lubero vont bientôt quitter le site pour leur réinsertion communautaire. C'est le coordonnateur provincial adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles du programme de désarmement et démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qu'il a annoncé ce jeudi à Beni. Une délégation du PDDRCS s'est rendue ce même jeudi à Kassando pour procéder à la sortie de ses ex-combattants et fermer le site. Joseph Soukissa, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles du programme PDDRCS au Nord Kivu, explique au micro d'André Kitenge.
Je suis venu en mission pour voir les travaux de la réinsertion des ex-combattants de Kassando. C'est pour voir comment les travaux IMO se passent à Beni. À Beni, OIM mène en avance avec les travaux IMO parce qu'ils sont en train de réhabiliter les routes de cette agricole. Avec les rendis qui sont venus de Goma, qui étaient cantonnés à Mobambiro, et aujourd'hui, voilà, ils sont transportés par la MONUSCO, qui est le grand partenaire potentiel du gouvernement. Maintenant, le temps est arrivé. C'est maintenant que nous voulons répondre et surtout que nous sommes maintenant à la fin du projet parce que le projet a beaucoup tardé parce qu'il y avait beaucoup de changements au niveau de la coordination nationale et il y avait aussi beaucoup de compréhension et maintenant qu'on a trouvé compromis parce que le gouverneur nous a appelés pour mettre fin à Kassando. C'est comme ça que le gouverneur nous a réunis nous tous avec les partenaires pour décider sur Kassando et vider Kassando et les partenaires prennent les ex-combattants dans les travaux IMO pour réhabiliter toutes nos routes de cette agricole qu'on a déjà ciblée. Cette fois-ci, vous quittez les cités parce que tout est déjà mis en marche.
Par ailleurs, à Ituri, environ 1000 ménages des personnes déplacées du site de Katsu, proche du centre de Katoto, à 30 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou, ont reçu mercredi des articles ménagers essentiels. Cela entre dans le cadre du projet Réponse rapide de l'UNICEF exécuté par l'ONG PPSSP, Programme des soins de santé primaires. Cet appui arrive 2 semaines après l'incendie qui s'était déclaré et dans ces camps causant mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels. Explication de Martial Kizabiamungu.
Au total, c'est 978 ménages, à majorité de femmes et enfants, qui ont bénéficié de cette assistance composée essentiellement d'ustensiles de cuisine, des couvertures, des pagnes et des nantes. Il y a aussi des bidons, savons, des lessives, des toilettes, des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréation et des bâches par ménage qui va les aider à reconstruire leurs abris détruits par la flamme le 13 mars 2024. Trésor Muyumba, chargé de communication des PPSSP, reconnaît que c'est une goutte d'eau tant les besoins de se déplacer sont énormes.
Bien qu'il y ait encore autre gap, notamment en termes de wash, on a donné aussi des outils aératoires pour soutenir cette population dans l'écrasage de trous et d'autres travaux d'assainissement dans les sites.
Les bénéficiaires salissent cette assistance et appellent d'autres organismes à suivre cet exemple pour leur venir en aide avec de la nourriture.
Nous remercions l'UNICEF parce qu'on a reçu des bâches, des couvertures, des seaux, des savons parce que nous avons été victimes d'incendies.
Ces familles des personnes déplacées n'arrivent pas à accéder à leurs champs à cause de la présence des hommes armés, ce qui accentue leur misère dans les sites de déplacement. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, lutte contre l'incivisme routier et traque des mototaximens interdits d'accéder à la Gombe. Le numéro 1 de la police de la ville-province de Kinshasa annonce désormais les recours aux drones. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba précise, je le cite, « Ces drones vont nous permettre de les voir quand ils quittent leurs limites et accèdent à Gombe. Ils seront appréhendés avec leurs passagers. » Fin de citation. Il ajoute que cette même méthode sera utilisée pour combattre les embouteillages. On écoute le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
La police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui et y compris leurs passagers une fois de plus. Donc, le message, c'est que nous allons utiliser la même méthode, même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras, jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commence le droit des autres.
Et puis, sur 14 900 détenus de la prison centrale de Makala, hier soir, le parquet général près la cour de cassation en a libéré 69. Selon les directeurs de ces pénitenciers, l'opération va se poursuivre ce vendredi jusqu'à réduire sensiblement le nombre de pensionnaires de cette prison. Rappelons que cette maison carcérale a une capacité d'accueil de 1500 détenus. Et à la prison militaire d'Indolo, où la même opération va avoir lieu, on compte 2000 pensionnaires au lieu de 500. Il y a encore quelques centaines de détenus préventifs sans jugement ni dossier ouvert depuis de nombreuses années dans les cachots clandestins des services de renseignement militaire ex-DEMIAP, où la cellule dite Zaïr reflète l'enfer, le couloir de la mort. C'est le tableau sombre de la situation carcérale de Kinshasa. Un rapport clair sur la situation des prisons en RDC, plus particulièrement celle de Kinshasa, est attendu au plus tard ce vendredi 29 mars à l'issue des travaux de la commission créée par la ministre de la Justice pour désengorger ces prisons surpeuplées. Jeff Ngoy pour les détails.
Les détenus rencontrés à la DEMIAP disent avoir passé plusieurs années au cachot de l'ANER où ils passaient nuit à même le sol. Le ministre honoraire du tourisme, Moderon Simba, vient de témoigner devant les juges de la cassation sur les cris de détresse des détenus de ces cachots menacés de mort et ici on est coupé de tout contact extérieur. Je ne sais pas si ma famille est au courant de ma présence ici. À Makala, une centaine de détenus sont entassés dans une cellule de 4 mètres sur 2. Ils passent nuit dans une position dite ciseaux, c'est-à-dire d'un seul côté comme à la DEMIAP. Le 24 septembre 2020, une visite d'inspection est effectuée avec le ministère de la Justice et l'Union européenne sur le site de Mbeseke. Ce partenaire européen se disait prêt à réhabiliter l'établissement de garde de l'État EG pour accueillir et rééduquer les enfants en conflit avec la loi qui ne doivent pas se retrouver à Makala. Mais depuis lors, ce projet est gardé dans les tiroirs. L'année dernière, l'inspectorat des services judiciaires et pénitentiaires a enquêté sur cette situation et proposé la construction d'une nouvelle prison à Menkao et 11 autres dans l'ancienne configuration des provinces. Rien ne suit jusqu'à ce jour. Le désengorgement qui s'amorce à Makala et Indolo, on espère qu'il va s'étendre aux cachots clandestins dont le chef de l'État Félix Tshisekedi avait pourtant annoncé la fermeture lors de son premier quinquennat.
Politique. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika est au complet. Cyril Kimpou a été élu ce jeudi comme président du bureau au second tour. À cette occasion, il lance un message de l'unité à tous les députés provinciaux, signalant que l'Assemblée provinciale du Tanganyika a été déstabilisée ces dernières années par des turbulences politiques. Le point avec Paul Mounanga.
Le nouveau président du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika rassure que les élus du peuple vont travailler dans l'unité et pour l'intérêt de la population. Cyril Kimpou Awel.
Je voulais insister sur le fait que ce vote n'est pas la victoire d'un camp contre un autre camp. C'est la victoire de toute la province du Tanganyika. Nous allons travailler ensemble avec tous les collègues pour rassurer et permettre le développement à notre province. Nous allons prôner l'unité, le dynamisme et un leadership fort pour l'intérêt de la population et de toute la province.
Rappelons que des divisions à l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont été à la base des bagarres entre députés. Des bureaux de cet organe délibérant ont été vandalisés. L'Assemblée a été fermée à deux reprises à cause des troubles orchestrés par certains députés. En mai 2021, l'Assemblée provinciale du Tanganyika a voté une motion de censure contre le gouvernement provincial, ce qui a abouti à la destitution du gouverneur Zoé Kabila. En mai 2023, une motion de défiance a été introduite par un député à la même assemblée provinciale contre la gouverneure Julie Ngungwa, ce qui a abouti à sa déchéance. Mais elle a été réhabilitée quelques mois après par la Cour constitutionnelle. Kalemi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Parlons encore, mois de la femme. En Bandaka, la dynamique des médecins, femmes de l'Équateur, d'IMEFEC, a organisé mercredi une conférence débat sur le cancer du sein. C'est la première pathologie qui tue les femmes atteintes de cancer à l'Équateur. Mais dans la province, les établissements de soins sont confrontés au manque criant de matériel de diagnostic en vue d'une prise en charge correcte. Docteur Natacha Longoso, l'oratrice du jour, parle de quelques-unes de ces difficultés au micro de Paul-Richard Malengela.
Le cancer du sein, c'est une maladie qui est vraiment plus fréquente dans notre milieu. Et puis, elle reste aussi la première cause de décès par cancer chez la femme. Et de cela, on voit qu'il y a beaucoup de cas qui restent un peu trop silencieux, qui ne sont pas notifiés parce qu'elles restent à la maison, parce qu'elles ne savent où aller. Et c'est pourquoi nous, étant femmes médecins de la province de l'Équateur, nous avons organisé cette conférence dans le sens de la sensibilisation pour que la femme de l'Équateur soit éveillée pour savoir que le cancer du sein est une maladie qui tue réellement. Pour que la femme puisse se préserver par rapport à cette maladie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous savons qu'il y a des facteurs de risque par rapport à cette maladie. Il y a des facteurs de risque qui sont internes et externes. Les facteurs de risque internes ne dépendent pas de nous parce que c'est de l'âge, ça dépend de la prédisposition familiale ou génétique, les antécédents familiaux et consorts. Mais par rapport aux facteurs de risque externes, ce sont des facteurs de risque qui sont liés à l'environnement, au mode de vie et aux conditions de vie.
Pour réduire les risques, Dr Natacha insiste sur la sensibilisation, mais aussi elle conseille aux conjoints de pratiquer régulièrement la palpation des seins en vue de prévenir cette maladie.
Actualité internationale.
La quasi-totalité des passagers d'un bus, soit 45 personnes, sont morts ce jeudi 28 mars 2024 en Afrique du Sud dans un grave accident de la route, le véhicule ayant fait une chute d'une cinquantaine de mètres du haut d'un pont avant de s'écraser au fond d'un ravin. L'accident impliquant un bus transportant apparemment des passagers du Botswana à Moria a fait au moins 45 morts et un blessé grave, annonce le ministère des Transports dans un communiqué.
L'invité.
C'est Roger Mutshuba. Il est le président du conseil d'administration de l'ONG Environnement, Ressources Naturelles et Développement, RND Institute, une organisation de défense des droits de l'homme. Il plaide ici pour la traçabilité du diamant vert découvert en 2022 dans la Lomami et dont le propriétaire Albert Ngoy, creuseur artisanal, est méconnu jusqu'à ces jours. Roger Mutshuba s'entretient avec Paul Matendo.
Roger Mutshuba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, vous parlez d'un diamant vert découvert il y a 2 ans à Lomami et que l'on ne sait pas retracer à ce jour. De quoi s'agit-il exactement?
Monsieur Albert Ngoy Bouilou, exploitant artisanal de son état, reconnu par la province, par la SAIMAPE, les services qui s'occupent de la petite mine, avec tous ses papiers, il a creusé ce diamant-là dans un puits bien connu. Le diamant a été identifié par les services compétents. Il a eu des problèmes puisque c'était une pierre de valeur. Et après, quand il a été menacé, il a même été arrêté. Pour la sécurité de la pierre et de sa sécurité, il a envoyé ça auprès de l'autorité provinciale, qui est pratiquement l'autorité qui pouvait les protéger et protéger ces diamants-là. Malheureusement, arrêté au parquet de Cabinda, où il a passé 12 jours, quand il fut libéré, il est allé pour récupérer son diamant, voir si ce diamant peut être mesuré et être vendu selon la procédure. Et c'est en ce moment-là que tous les problèmes ont commencé. Et il n'avait pas de choix que de se réfugier ici à Kinshasa pour chercher secours et refuge.
Un diamant découvert par un creuseur artisanal dans la Lomami, n'existe-t-il pas un mécanisme de traçabilité des matières premières en RDC?
Il y a le processus de Kimberley qui insiste sur la traçabilité, sur le respect de la procédure en ce qui concerne les matières précieuses. Aujourd'hui, il y a les débats sur l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur le respect et le développement de la chaîne des valeurs, qui montre comment un produit qui est pris dans un puits doit être retracé jusqu'à la vente. Et aujourd'hui, il y a un flou qui persiste de là où il y a la pierre, et par contre, il y a deux autorités qui privent ces messieurs de ses droits constitutionnels, mais qui privent aussi la nation congolaise de tous les avantages liés, n'est-ce pas, au code minier, et aussi cela pourrait être considéré comme un cas de violation de tous les principes de la bonne gouvernance.
Alors, vous parlez du respect des procédures en place. Peux-tu y avoir des conséquences sur le plan économique dans cette affaire?
Si on doit rentrer sur l'initiative pour la transparence des industries extractives, ceci est condamnable sur le plan international, mais aussi les processus de Kimberley. Donc ceci pourrait exposer notre pays à des sanctions, mais aussi pratiquement à la honte si nous n'arrivons pas à montrer que nous respectons notre code minier et nous respectons notre constitution.
Nous savons que vous êtes dans le domaine de ressources naturelles, Roger Moutouba. Qu'est-ce qui explique autant d'engagement dans la défense de ces trésors de la Lomami?
Ça peut être une garantie au niveau de la banque et qui peut sécuriser notre monnaie. Vous savez, aujourd'hui, la monnaie est garantie par l'or ou par les matières premières et que deux autorités au niveau de la province séquestrent ces diamants et qu'au niveau de Kinshasa, personne ne dit mot, les ministres des mines ne disent rien, les directeurs de la SAIMAP ne disent absolument rien. La lettre que nous avons écrite à la présidence il y a à peu près un mois aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Et donc nous sommes vraiment inquiets que cette pierre disparaisse et que ça soit un préjudice grave pour l'État congolais. Et je crois qu'il est grand temps que ceci arrive vraiment aux oreilles du président de la République, qu'il puisse instruire ses services pour que ces diamants soient récupérés et qu'il y ait vraiment une cérémonie officielle pour montrer la pierre et montrer le leadership de la RDC sur la question des pierres précieuses. Comme c'est une pierre de grande valeur, comme nous l'avons dit, qui serait la plus grosse pierre des diamants verts au monde et qui pourrait détrôner la pierre qui est adressée en Allemagne, et donc une personne comme ça devait être récompensée et reconnue même au niveau national et international, lors même d'une cérémonie, puisqu'en fait, ça devient une question nationale, puisque ça montre le leadership de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les pierres précieuses. Donc,
Roger Moutouba, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était interrogé par Paul Matendo. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda, sous la supervision éditoriale d'Alain Rungumushins. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nsoalu, a assuré la mise en onde. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci et très bonne suite de la matinale avec Kaki Akewa.